Parole d'assaut, une émission de Didier Blons, prise de son Gisèle Billon. Aujourd'hui, nous recevons Flûte Océane avec pour invité Jean-Yves Lefrançois. Jean-Yves Lefrançois, bonjour, parlez-nous un peu de Flûte Océane, cette association havraise.
Oui, cette association havraise que j'ai créée il y a maintenant plus de 20 ans. Et je l'ai créé parce que je rencontrais parfois d'anciens élèves du conservatoire qui me disaient qu'ils ne jouaient plus de flûte parce qu'ils ne trouvaient pas d'ensemble pour continuer à faire de la musique. Et j'ai trouvé ça très très dommage. Et ça a correspondu aussi à une période de ma vie où j'avais un peu plus de temps. Donc j'ai décidé de créer cette association pour réunir les amateurs flûtistes qui avaient envie de continuer à faire de la musique et monter ensemble des projets intéressants.
Racontez-nous un peu cette histoire de la flûte, parce que moi-même musicien, je rencontre beaucoup d'anciens élèves qui, lorsqu'on parle de flûte, ils nous disent « Oh là là, la flûte à bec, c'est ce qu'on apprend au collège, c'est nul !» Alors qu'en fait, il y a plusieurs sortes de flûtes, et que la flûte à bec, il y a plein de choses à faire, et de très belles choses.
Oui, mais écoutez, au Conservatoire du Havre, la flûte à bec n'est pas enseignée. Pour l'instant, il n'y a que la flûte traversière d'enseigner. La flûte traversière et la flûte à bec étaient jouées simultanément, même plutôt la flûte à bec, jusqu'au XVIIe siècle. Et après, la flûte traversière a pris son essor et s'est perfectionnée. Et ce qui lui a permis d'entrer dans l'orchestre et d'aujourd'hui d'être beaucoup joué, beaucoup plus que, à mon avis, que la flûte à bec. L'histoire de la flûte traversière, c'est une histoire très ancienne qui remonte jusqu'à l'homme préhistorique, évidemment pas avec la flûte que nous connaissons. L'homme préhistorique prenait un os de renne. Il coupait la tête, vidait la moelle, perçait un trou et soufflait dedans. Voilà, c'est l'ancêtre de la flûte traversière. Est-ce qu'on peut dire que c'est une flûte traversière ? Dans un certain sens, oui. Mais elle servait certainement pas à faire de la musique. On suppose évidemment qu'elle servait peut-être à la chasse, pour faire des chasses en battue. Et pour effrayer le gibier, peut-être servait-elle dans les grottes, au fond des grottes, avec un côté religieux, on ne sait pas, c'est possible.
On a retrouvé les traces de ces instruments, ça fonctionne.
Ah oui, oui, on a retrouvé des...
On les a datés.
Oui, oui, dans les grottes d'Isturitz, dans les Pyrénées, on a retrouvé d'anciennes flûtes traversières, si on peut dire, en os. Oui, oui, c'est tout à fait... Elles existent encore, Malheureusement, il ne faut plus les jouer, parce que si on souffle dedans, elles sont tellement vieilles qu'on les explose, quoi. Bien plus tard, au Moyen-Âge, est arrivée la flûte avec juste le trou de l'embouchure et quelques trous pour mettre les doigts, avec six trous, un trou sous les six doigts de la main droite et main gauche, avec une perce tout à fait simple, cylindrique. Et puis est arrivé le XVIIe siècle, où là, la flûte a commencé à se perfectionner, en même temps que la musique d'ailleurs, c'est peut-être sûrement l'une des raisons pour laquelle elle s'est perfectionnée. On a commencé à ajouter une clé pour le petit doigt de la main droite, pour que le son soit meilleur, un peu plus juste. Et puis au XVIIIe siècle, on a ajouté deux clés, trois clés, quatre clés. On a modifié la perce, et ce qui a permis à la flûte d'intégrer des groupes avec des violons, de participer à des concertos grosso. Et là, la flûte traversière a pris le pas sur la flûte à bec. Au XIXe siècle, elle s'est encore modernisée grâce à un facteur d'instrument qui s'appelait Théobald Böhm et qui a créé le système actuel, le mécanisme actuel, avec une perce différente. Et là, la flûte a pu rivaliser avec un peu le violon, qui était un grand concurrent pour la flûte et un exemple à suivre. Le violon, qui était déjà arrivé au XVIIe siècle dans une forme quasi définitive. Et là, la flûte pouvait presque rivaliser en technique avec le violon et également en puissance. Il ne faut pas oublier qu'au XIXe siècle, les salles, même au XVIIIe siècle, les salles s'agrandissent, au XIXe siècle, les concerts apparaissent, et il fallait absolument que la flûte se modernise pour pouvoir continuer à jouer avec les autres instruments et à jouer dans des salles de concert.
Reviens sur les flûtes préhistoriques. On les trouve dans le monde entier ?
On les trouve dans les Pyrénées. Dans le monde entier, je vous dirais franchement, je ne sais pas.
Les Incas, on a retrouvé
les Incas,
des...
Oui, on a retrouvé des flûtes
en terre aussi.
Voilà,
oui.
C'est ça, oui. Mais ça ne remonte pas aux
hommes
préhistoriques. Hein.
Oui, oui. Et les flûtes en roseau ?
Oui, c'est une autre sorte de flûte, mais les flûtes, c'est fait partie des flûtes du monde. Hein. Les flûtes, vous savez, c'est aussi vieux que l'humanité. Peut-être que les instruments à percussion étaient encore plus anciens. Je pense que la première chose qu'a dû faire l'homme, c'est taper avec un morceau de bois sur une pierre. Il a tout de suite dû repérer des pierres qui sonnaient mieux que les autres, ou des bois qui sonnaient mieux que les autres. Il a dû certainement taper dessus. Et peut-être que la flûte est venue un peu après, je ne sais pas, j'y étais pas.
Il nous manque des informations, parce que tout à l'heure, quand vous parliez de perce, ces trous, on sait ce que c'est qu'une note, le do, le ré, il y a deux demi-tons, mais comment ont fait les premiers hommes qui n'avaient pas la théorie que nous connaissons aujourd'hui, qui n'avaient pas accès à l'ingénierie, qui ne pouvaient pas savoir s'il fallait un centimètre ou un centimètre et demi entre les trous, c'était l'essai-erreur. D'un pays à l'autre, d'ailleurs, il n'y avait pas de pays, il n'y avait pas de frontières à l'époque.
Mais tout se passait à l'oreille. Tout se faisait à l'oreille, à l'essai. On essayait, bon, c'était mieux, on continuait, c'était moins bien, on abandonnait. Et ça se passait certainement de maître à élève. Ça se passait oralement, de maître à élève. Les traités de flûte, avant le XVIIIe siècle, il n'y en a pas. Il y a quelques annotations très... sommaire, mais c'est tout, un vrai traité de flûte. Il faut attendre le XVIIIe siècle avec Quantz, quelques tablatures de doigté avant. Il faut attendre cette époque-là. À l'époque baroque, la musique commençait... Même à la fin du Moyen-Âge, la musique s'écrivait, mais de façon très partielle. Et entre ce qu'on écrivait et ce qu'on jouait réellement, il y avait une différence. Et les maîtres savaient et transmettaient à leurs élèves.
On a du mal à imaginer que des élèves ou que des musiciens aient du mal à trouver où jouer ou avec qui jouer, parce que la flûte traversière nous paraît comme un instrument assez assez courant, un peu comme la guitare. On a l'impression que la flûte, on la trouve dans les orchestres classiques, on les trouve dans les fanfares, on les trouve avec les orchestres de variété. Je pense même à des musiciens de rock comme Jet Rotule. Vraiment, tous les styles de musique s'accordent avec la flûte traversière et on peut imaginer que, comme il y a des guitaristes autour d'un feu de bois, on peut trouver un flûtiste traversière qui joue et qui accompagne d'autres musiciens.
Oui, moi, si vous voulez, je suis plus spécialiste de la flûte traversière classique. Donc le rock, tout ça, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aux États-Unis, la flûte traversière est très courante, comme chez nous, la guitare, un peu. Il y a beaucoup de groupes d'ensembles de flûte traversière aux États-Unis. Il y a des concours même d'ensemble entre différentes villes, entre différents États. Chaque État a son ensemble de flûte propre. Et il y a des concours entre les États. Et il y a l'ensemble national, National Flûte Chœur, qui représente la meilleure phalange des États-Unis en flûte traversière.
Vous êtes bien avec Didier Blons et Paroles d'Assaut.
Votre association, Jean-Yves Lefrançois, Flûte Océane, donc vous l'avez créée pour des musiciens qui avaient du mal à trouver d'autres musiciens.
Oui, pour des musiciens amateurs qui voulaient continuer à se faire plaisir en jouant de la musique et puis continuer à progresser peut-être et puis à approcher aussi peut-être différents styles de musique qu'on n'approchait pas toujours au conservatoire.
Vous vous retrouvez quand ?
Nous nous retrouvons tous les lundis soirs au conservatoire Arthur Honegger du Havre. Le conservateur nous accueille très très gentiment, comme il accueille d'ailleurs d'autres associations musicales, des chorales en particulier. Et nous répétons tous les lundis de 18h30 à 20h.
Avec des niveaux différents ?
Oui, il faut quand même un minimum de quelques années de pratique instrumentale pour pouvoir faire partie du groupe, bien évidemment. Les gens jouent dans cet ensemble pendant quelques années, mais vous savez, au Havre, la population bouge beaucoup. Nous avons presque exclusivement des femmes. Donc, parfois, elles viennent après le conservatoire, après leurs études musicales, au conservatoire ou dans d'autres écoles de la musique ou de France, parce que, comme je vous disais, ça bouge beaucoup. Donc, on récupère aussi des gens qui ont appris à jouer de la flûte dans d'autres villes de France. Et puis, bien après, elles forment un foyer, elles ont des enfants. Et alors là, souvent, malheureusement pour nous, elles arrêtent de pratiquer pendant de nombreuses années, jusqu'à temps que le petit dernier soit bien autonome et qu'elle puisse commencer à pratiquer à nouveau la musique et parfois revenir vers nous.
Et la flûte, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas, un instrument qu'on a aimé.
Ça ne s'oublie pas, mais si vous ne faites pas de vélo pendant de nombreuses années, quand vous allez remonter dessus, je crois que vous allez avoir mal à différents endroits du corps, et puis vous allez vous rendre compte que vous en avez beaucoup perdu. Mais ça va revenir.
Ça va revenir avec du travail. De toute façon, la musique a beaucoup de travail.
Oh, c'est jamais acquis.
C'est tous les jours, la musique.
C'est tous les jours, oui, c'est terrible.
C'est terrible, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de vacances.
Mais vous savez, il n'y a pas que la flûte, hein, c'est l'organisme qui veut ça. Si vous arrêtez de marcher pendant quelques semaines, vous allez faire de la rééducation, parce que vous ne savez plus, le muscle s'est atrophié et il faut apprendre à marcher alors que vous avez fait des millions de pas dans votre vie pendant des années. Et à cause de quelques jours d'arrêt, il faut réapprendre. C'est terrible.
Beaucoup de musique classique. Ça va de camp à camp, quel style ?
De la musique baroque à la musique classique d'aujourd'hui. Nous demandons régulièrement à des compositeurs de nous écrire des œuvres pour ensemble de flûte. Et nous jouons exactement aussi des transcriptions d'œuvres de musique baroque pour ensemble de flûte.
Il y a vraiment des œuvres pour flûte traversière ?
Oui, un répertoire énorme que l'on découvre de plus en plus, en particulier grâce à Internet, qui permet de jouer des œuvres qui sont enfermées au fin fond de bibliothèque, auxquelles on n'aurait pas accès, mais grâce à Internet, on peut les trouver, les imprimer et les jouer.
Et puis des compositeurs modernes, des gens qui écrivent aujourd'hui pour flûte.
Oui, nous leur demandons d'écrire pour notre ensemble de flûtes, et cela enrichit le répertoire, parce que malgré tout, le répertoire d'ensemble de flûtes n'est pas riche en France, il n'est pas riche. Aux États-Unis, il est beaucoup plus riche, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a de nombreux ensembles, déjà depuis de nombreuses décennies, donc ça a favorisé la création d'un répertoire spécifique pour ensemble de flûtes. Mais en France, c'est relativement récent, ces ensembles de flûtes. Modestement, nous participons à la création de ce répertoire.
Est-ce qu'il vous arrive d'adapter des morceaux qui ont été écrits pour d'autres instruments, ou je pense également des fois des morceaux qui sont composés pour une flûte soliste, et dans la mesure où vous travaillez en groupe, d'adapter, d'arranger une mélodie pour jouer à plusieurs?
Si vous prenez une œuvre qui a été écrite pour une flûte soliste avec un accompagnement de cordes baroques, on peut. On garde la partie de soliste, on n'y touche pas, mais la partie ensemble à cordes est arrangée pour ensemble de flûtes. Différentes parties de flûte en ut, flûte alto et flûte basse. Nous jouons aussi, par exemple, des arrangements de thèmes de films, de Morricone, par exemple, ou de Michel Legrand, que nous adaptons pour ensemble de flûtes. Ça varie le répertoire, bien sûr. Nous jouons aussi des airs d'opérette, et en particulier dans les EHPAD. Quand nous allons dans des EHPAD, c'est un public qui a connu la période des opérettes. Franchement, ça a beaucoup de succès auprès de des pensionnaires des EHPAD. Ça leur rappelle leur jeunesse, ça leur rappelle quand ils étaient avec leur conjoint, qu'ils allaient écouter le dimanche après-midi, un air de opérette, et on a vu des choses parfois vraiment très émouvantes en leur jouant ces airs de opérette, même si c'était des arrangements pour ensemble de flûtes, ça leur rappelait des souvenirs qui sont enfouis au plus profond de leur mémoire.
Thank you.
toujours Parole d'Assaut.
Je pense que beaucoup d'auditeurs savent ce qu'est une flûte traversière, grosso modo.
J'espère, mais je suis pas persuadé.
Mais justement, j'aimerais que vous puissiez nous décrire différents types, physiquement, nous décrire ces instruments, puisqu'il y en a plusieurs. Vous avez parlé de flûte basse, vous avez parlé...
Oui. Bah, la famille des flûtes est assez large. Vous avez, par exemple, le fifre. Le fifre, c'est un instrument que l'on trouve, c'est un instrument d'importation. On le trouve plutôt sur les, aux frontières de la France, côté de la Belgique, de l'Allemagne, un peu vers l'Italie.
Et c'est très très aigu comme son.
Ah, c'est très aigu et très perçant, très très perçant. Il était utilisé autrefois dans les armées. Vous aviez une rangée de tambours, une rangée de fifres, et il servait à jouer des marches pour entraîner le régiment. Et je peux vous dire que c'était très perçant. Même avec des roulements de tambour, on les entendait du fond du régiment. Alors voilà, vous avez le fifre avec un répertoire très ciblé, très particulier, des marches. Le fifre rythmait aussi la vie militaire, un peu comme le clairon. Vous aviez au drapeau, par exemple, vous aviez la retraite... Voilà, vous avez un répertoire spécifique pour la vie militaire. Vous avez aussi le piccolo. Le piccolo, qui fait partie de l'orchestre symphonique, c'est une petite flûte. C'est le bébé de la flûte, si vous voulez. C'est le clone de la flûte, mais en modèle réduit. Vous avez également la flûte tierce, qui ne se joue plus aujourd'hui, mais elle se joue encore, mais dans le jazz ou dans la musique sud-américaine. Mais elle ne se joue pas en musique classique.
Et pourquoi ?
Elle a disparu de la musique classique. Je pense qu'elle est, elle servait uniquement dans les orchestres d'harmonie pour accompagner les petites clarinettes en mi bémol. Parce que la flûte tierce est en mi bémol, les petites clarinettes sont en mi bémol. Et je pense qu'ils devaient être l'une à côté de l'autre pour jouer cette partie en mi bémol. Mais elle a disparu parce que je suppose qu'elle n'avait plus son utilité. Les clarinettes en mi bémol se suffisaient. On joue toujours des clarinettes en mi bémol dans les orchestres d'harmonie, mais plus de flûte tierce. Vous avez aussi la flûte traditionnelle en ut que les enfants apprennent dans les écoles de musique ou les conservatoires ou les associations.
Et est-ce que ce sont les mêmes doigtés d'une flûte à l'autre ?
Oui. Oui, oui, ce sont les mêmes doigtés, juste une petite différence au niveau de l'écartement des doigts, évidemment en fonction de la longueur de l'instrument. Autrement, ce sont les mêmes doigtés. L'embouchure est un petit peu différente, il faut s'habituer, mais on s'y fait vite. Il faut changer légèrement la pince des lèvres, c'est tout. Et puis la pression de l'air aussi. Vous avez aussi la flûte alto, qui est un peu plus grande que la flûte en ut, et qui est un instrument transpositeur, qui sonne une tierce en dessous de la flûte traversière. Puisqu'elle est un peu plus grave, elle sonne évidemment en dessous. Et vous avez enfin la flûte basse, qui est tellement grande que les luthiers ont courbé la tête, parce qu'autrement on n'aurait pas eu les bras assez longs pour tenir la flûte. Et elle sonne une octave en dessous de la flûte en ut. Vous avez aussi des flûtes, alors ça c'est beaucoup plus rare, on n'en a pas ici sur le Havre, vous avez des flûtes octobasses, et encore un modèle plus grave, qui est tellement grave, la flûte est tellement grande qu'il faut monter trois marches pour pouvoir atteindre l'embouchure, elle descend vers le sol, elle remonte, enfin elle fait un circuit impossible à décrire. Tellement, je ne sais pas combien il y a de mètres de flûte exactement, mais et puis alors, la largeur du tube est énorme, ce qui fait que vous faites 400 notes et puis vous n'avez plus d'air. Et c'est un son extrêmement grave, très spécial.
C'est moi, votre oncle Scrooge. Je viens dîner. Puis-je entrer ? S'il pouvait entrer. Au bout de 5 minutes, Scrooge était aussi à l'aise que chez lui et passa la meilleure soirée de sa vie. Le lendemain, il partit travailler de bonne heure. Son employé Bob arriva avec 15 minutes de retard. « Hola !» grommela Scrooge. « Que signifie ce retard ? Je suis désolé, monsieur, dit Bob. Vous pouvez l'être. Venez par ici, s'il vous plaît. Cela n'arrivera plus, monsieur. Je me suis un peu amusé hier. Fort bien. Mais je vous dirai, mon ami, que cela ne peut plus durer. Par conséquent, je vais augmenter vos appointements. Bob pensa que son patron avait perdu la raison. Mais celui-ci poursuivit sérieusement. Joyeux Noël, mon brave garçon. Je vais augmenter votre salaire et je m'efforcerai de venir en aide à votre famille.
Jean-Yves Lefrançois, quelles sont les différentes activités de Flûte Océane ?
Nous avons différents projets, par exemple avec des chorales d'enfants. Parfois, nous montons un spectacle, pour Noël par exemple, mais pas seulement, avec des chorales d'enfants de la région, ça peut être des chorales de collège ou de lycée. Nous avons également des actions musicales en direction des EHPAD, avec un répertoire spécifique. Je vous disais tout à l'heure, les opérettes, par exemple, ou de la musique festive de fin d'année, genre concert du Nouvel An, avec des œuvres de Strauss, des œuvres gaies, rythmées. Et puis, nous jouons parfois aussi pour des associations, comme l'association des aveugles, par exemple. Nous avons plusieurs fois fait des concerts assez émouvants avec cette association. Nous jouons aussi parfois dans des écoles de musique, des projets autour de la flûte traversière. Je présente une collection de flûtes anciennes. Et là autour, on monte un projet avec les élèves de cette école de musique et de l'ensemble de flûtes. Nous avons à Flûte Océane une collection de flûtes traversières d'Europe qui s'étend du XVIIIe siècle à nos jours, avec à peu près 80-90 instruments que nous présentons dans les écoles de musique ou les conservatoires. Cette collection de flûtes retrace l'histoire de la flûte traversière depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et je présente non seulement l'histoire de la flûte traversière, son évolution, mais aussi tous les matériaux dans lesquels ont été fabriqués des flûtes. Vous avez l'ébène, le buis, le palissandre, vous avez aussi le poirier, l'ivoire, l'argent, le platine, l'or. Et je joue de ces différents instruments pour montrer les différentes sonorités que l'on a. C'est évident qu'on n'a pas la même sonorité avec une flûte en ivoire qu'avec une flûte en or. Et puis je joue aussi des différentes flûtes, de la famille des flûtes, du piccolo, du fifre, comme je vous expliquais tout à l'heure, de la flûte alto, la flûte basse. Nous accompagnons aussi parfois des chorales d'adultes, ou alors des projets avec des écoles de danse. Ça nous est arrivé de jouer de la musique sur laquelle une école de danse chorégraphiait la musique. Voilà. Nous avons aussi l'aspect création. Régulièrement, nous demandons des compositeurs de nous écrire des œuvres pour notre ensemble de flûtes, parfois avec un instrument soliste, comme la harpe, par exemple, des percussions. Et nous enregistrons ces œuvres après pour confectionner des CD différents.
Jean-Yves Lefrançois, je vous remercie. C'était le 56e numéro de Paroles d'Assaut, une émission de Didier Blonce, prise de son Gisèle Billan. Aujourd'hui, nous recevions Flûte Océane avec pour invité Jean-Yves Lefrançois. Jean-Yves Lefrançois, merci, au revoir à tous.